sujets de l'heure. Éditorial. Entrevue. Vos commentaires. Jusqu'à 15 heures, vous écoutez Mon Grain PM.
Je me sens présentement comme dans un film d'espionnage, dans un film de James Bond. Mais c'est pas moi, mais je vais aller rencontrer cependant M. M. Raphaël Jacob, qui est au courant de tout. C'est le spécialiste de la politique américaine et collaborateur ici au 98.5. Bonjour Raphaël.
Je pense que c'est la façon la plus flatteuse que j'ai jamais eu de me faire présenter en ondes, Monsieur M. Pour finir la semaine en plus, là, ça
fait
bien.
C'est bon. Écoute, un document secret en provenance du Kremlin, qui est le Parlement russe, dit qu'on favorisait l'élection de Trump parce que c'était un instable et que ça aiderait la Russie à prendre son hégémonie sur l'Amérique.
C'est-tu ouais. ça? Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Un document qui viendrait du Kremlin. Je vais le mettre au conditionnel parce que je pense qu'il faut quand même être prudent. Mais on ne sait jamais, surtout lorsqu'il est question du Kremlin. Tu sais, c'est plus que le siège du gouvernement russe. C'est probablement un des endroits dans le monde qui est censé être le plus impénétrable. Donc c'est surprenant en premier lieu qu'on ait un document de la sorte qui coule et qui coule aussi à ce moment-ci parce que, tu sais, ce dont on parle, là, ça remonte quand même à il y a à peu près 5 ans, 2016, ouais. pas ouais. la campagne de réélection. La première campagne d'élection. C'est ça, de Donald Trump. Et donc, présumant que le document est bel et bien vrai, est bel et bien authentique, ce qu'on comprend essentiellement, ce qu'on lit noir sur blanc là-dedans, c'est que c'est pas juste que les Russes voulaient que Donald Trump soit élu, c'est que Vladimir Poutine, le président russe, était personnellement impliqué, et ce, depuis le point de départ, pour essayer de faire élire Trump. Donc, toute la question de l'ingérence russe, dont justement on a tellement parlé dans les médias, surtout les médias occidentaux, là, depuis 5 ans, Poutine, il l'a toujours nié, lui, en bloc, catégoriquement, en public, à chaque fois qu'on lui a posé la question. Là, on vient carrément mettre ses empreintes digitales sur l'arme du crime. C'est là que ce qui vient de sortir dans les dernières heures est nouveau et fait réagir. Parce que, encore une fois, présumant que le document est bel et bien véritable, c'est assez difficile, pour ne pas dire impossible, à ce stade-ci, pour le président Poutine de dire « Non, non, c'est pas vrai, j'avais rien à voir là-dedans. »
Mais ce que le document-là dit, moi, ce qui m'a surpris, c'est que tu dis « Bon, ben, il favorise, admettons, l'élection de Trump. » Tu dis « C'est parce qu'il doit considérer que c'est le bon gars pour mener les États-Unis. » C'est le contraire. C'est le pire.
Non, mais c'est ça. Oui, exact.
Il est content. Il faut tout mettre en place pour favoriser l'élection de Donald Trump parce que c'est le plus mauvais. Fait que ça va nous aider, nous autres, de reprendre notre place dans le monde en lieu et place d'être dirigé ou influencé par l'Amérique. Le monde va être influencé par nous.
Absolument. Et dans le document, on lit là aussi presque noir sur blanc que l'objectif du gouvernement russe, c'est de déstabiliser les États-Unis. Et qu'on voyait dès 2016, donc avant même l'arrivée au pouvoir de Trump, en fait, quand son arrivée au pouvoir semblait, je pense, pour bien des gens encore assez improbable, bien, on voyait une possible Maison-Blanche Trump comme idéale pour accomplir cet objectif-là, de déstabiliser les États-Unis et donc renforcer la Russie dans un rapport de force entre ces deux puissances-là. Et Trump, oui, il est décrit comme étant quelqu'un qui est mentalement instable, encore une fois dans le même document, qui souffre également d'un complexe d'infériorité. Et ce qui est également très intéressant, c'est que on décrit, encore une fois dans le document interne, ce qu'on voit du côté russe comme les faiblesses des États-Unis. Ça inclut, et encore une fois, c'est la perspective russe de ça, c'est ça qui est fascinant.
Oui, non, mais c'est ça.
On dit le gouffre qui est très grand et qui est grandissant aux États-Unis entre la gauche et la droite. On parle de l'espace médiatique américain, des médias américains et du climat anti-establishment, anti-élite qui régnait déjà à l'époque sous Barack Obama. Donc ça, c'était les faiblesses principales qu'on voyait au sein de la société américaine et on se disait, si on peut avoir un président Donald Trump qui arrive au pouvoir, bien, s'il y a de quoi, c'est que ça pourrait en fait renforcer, si on veut, ou plutôt augmenter, venir bonifier, si on veut, ces faiblesses-là, donc affaiblir davantage le rival américain. Là.
Je nous sens comme citoyen, même si j'étais un citoyen américain, très petit en rapport avec des enjeux de coulisses aussi importants. Autrement dit, tu sais, allez voter, c'est important. Donnez votre opinion, vous allez voir, vous pouvez contrôler un peu l'avenir. Mais quand tu vois des jeux de coulisses comme ça, tu dis, bon, ça vaut-tu la peine, moi, que je vote, que j'aille me présenter? Ils sont en train de régler ça dans des coulisses, dans des jeux d'espionnage, de coulage d'informations. Je suis un petit peu brisé dans ma candeur citoyenne.
Dans votre idéalisme encore.
Oui, c'est ça.
Ouais. Ben, c'est sûr que ça peut avoir l'air, effectivement, un petit peu de l'image des marionnettistes. Là. Il y a une couple de personnes extrêmement haut placées.
Il y a du monde qui tire les ficelles.
Qui tire les ficelles pour le commun des mortels. En même temps, je pense que c'est bon qu'on parle d'élection parce que, de façon parallèle avec toutes les accusations d'ingérence de la Russie dans l'élection américaine, on a aussi beaucoup, beaucoup parlé de possibles collusions entre la campagne Trump et le gouvernement de Vladimir Poutine. Puis ça, il faut quand même le dire très clairement. Non seulement ça n'a jamais été démontré, mais le rapport Mueller, le fameux rapport du procureur spécial Robert Mueller, qui a quand même enquêté pendant plus de 2 ans avec des ressources, je veux dire, presque inestimables, des dizaines de millions de dollars qui ont été...
Il n'est pas arrivé lui non plus.
Et d'arriver absolument rien. Donc, il n'y a toujours rien qui démontre que Trump ou sa garde très, très rapprochée là, au moment de son élection était de mèche avec Poutine. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose aussi qu'on doit toujours rappeler, là, encore une fois, quand on se parle d'élection, c'est qu'on n'a jamais, jamais démontré que l'ingérence russe avait changé dans les faits.
Le résultat.
Exactement, le résultat. Donc, est-ce que c'est à cause de la Russie, ou selon vos convictions politiques, grâce à ça, à la Russie que Trump a été élu? On ne l'a jamais démontré et c'est très possible qu'on le démontre.
J'ai hâte de voir les réactions qui vont se produire suite à ce coulage possible, si c'est vrai et si c'est un vrai document.
Oui, exact.
Parlons d'autres choses maintenant. Les frontières, qu'est-ce qui va arriver avec ça?
Ben, c'est quand même assez... T'sais, je peux pas m'empêcher de rire un petit peu parce qu'on s'est parlé ensemble il y a 48 heures.
Ben,
ça
oui.
fait pas très longtemps. Puis, il y a 48 heures, Justin Trudeau parlait, et là c'est le mot « exact là, qu'il utilisait, évoquait le désastre qui pourrait survenir avec une rouverture, entre guillemets, trop rapide de la frontière.
Ouais.
Là, on se parle 48 heures plus tard. Puis
c'est pas impossible que ça survienne.
C'est très, je dirais à ce stade-ci, c'est rendu assez probable, en fait, qu'on annonce dans les prochains jours que d'ici à peu près un mois, peut-être moins que ça, là, on commence à rouvrir la frontière pour les voyageurs américains qui sont pleinement vaccinés. Ça mérite quand même d'être dit. Là. Ça serait pas n'importe qui dans un free-for-all, mais ça serait quand même une réouverture qui pourrait être assez importante alors qu'on soufflait complètement dans le sens inverse à peine plus tôt cette semaine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je pense qu'il faut le dire très clairement, là, la pression était rendue trop forte. Là, c'était les élus américains des deux partis politiques à tous les paliers de gouvernement qui étaient pour. C'était les
premiers ministres. Ils ne comprennent pas la résistance du Canada à ouvrir les frontières alors qu'eux autres veulent le faire absolument.
Veulent le faire depuis un bout de temps. Et là, c'était rendu qu'en plus d'eux, on avait plusieurs premiers ministres canadiens de provinces canadiennes, donc, qui mettaient de la pression. La population américaine qui est très nettement pour. Et là, c'était rendu qu'on avait même la population canadienne, dans le dernier sondage qu'on avait vu, qui était rendue aussi majoritairement pour. Fait que le gouvernement canadien était rendu presque complètement isolé dans sa résistance là, extrêmement farouche à des assouplissements. Fait que tu sais, ce qui est intéressant, c'est que le premier ministre Trudeau aurait dit dans les dernières heures, que si la vaccination continue puis que les conditions sanitaires le permettent, ben, on risque de rouvrir à la mi-août. Tu sais, encore une fois, ce qui est un petit peu comique, c'est que les conditions sanitaires, de quoi est-ce qu'on parle exactement? C'est quoi le baromètre? Parce que il n'y en a jamais eu de baromètre clair qui a été établi pour la fermeture puis la reconduite des mesures.
Ben non, c'est ça.
Il n'y en a pas plus aujourd'hui. Fait que tu sais, quand on dit, ou quand le gouvernement canadien nous dit « on suit la science », tu sais, moi j'ai le goût de dire « oui, c'est vrai, on suit la science politique ». Autrement dit, c'est peut-être bon de prendre des décisions qui sont populaires auprès de la population quand tu penses à la campagne électorale. Tu sais, je m'excuse, mais il y a beaucoup de ça présentement là-dedans.
Étant donné que par les ondes, on peut franchir toutes les frontières, je retourne aux États-Unis avec vous, cher ami, pour vous demander qu'est-ce qui se produit avec la demande des démocrates d'inciter un juge reconnu comme étant avec des penchants plus gauche que droite, plus démocrate dans sa pensée, de se retirer parce qu'il y a 82 ans, ça va être assez. Pourtant, ils sont nommés à vie.
Oui. Et il va avoir, en fait, 83 ans d'ici un mois.
Quelle est la stratégie?
La stratégie, c'est d'essayer de façon le plus subtile possible de l'encourager à prendre sa retraite. En même temps, au final, justement parce qu'il est nommé à vie, il n'y a personne qui peut lui montrer la porte. Et s'il y a de quoi, c'est qu'on ne veut pas non plus le braquer. Que là, ils se disent, voyons, ils ne vont pas me mettre à la porte de la Cour suprême.
Mais l'intention ultime, c'est, parce que le temps file, c'est de dire, on va en nommer un plus jeune de notre bord à nous autres, il va t'offrir plus longtemps.
pour éviter ce qui s'est passé l'an dernier quand on avait une autre juge, disons de mouvance plus à gauche, qui était décédée parce qu'elle s'était accrochée à son siège alors qu'elle a frôlé les 90 ans et elle avait été remplacée par une juge conservatrice parce que Trump était président. Donc là, on veut que pendant que Joe Biden, un démocrate, est président, que le Sénat, qui confirme les juges, les nominations du président, est encore à majorité démocrate, qu'on puisse remplacer ce type-là par un jeune loup. Mais est-ce qu'on va le convaincre? Ça, la question demeure entière.
Raphaël Jacob, merci beaucoup. Je vous souhaite une agréable fin de semaine.
Bon week-end.
Merci, toi aussi. Bye-bye.